carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bien connu de tous les académiciens, le nom d'Alain Stark, le grand tailleur des habits verts. Tradition familiale, perfection de la coupe, broderie cousue main, l'excellence d'un savoir-faire depuis 1910. La maison Stark fête donc son centenaire et s'offre à nous faire visiter son prestigieux atelier de couture. Canal Académie s'est rendu dans ses salons feutrés, rue de la Paix à Paris. Alain Stark, bonjour. Merci de nous recevoir et félicitations pour ce centenaire qui honore votre maison.
Bonjour à tous les auditeurs de Canal Académie. Et c'est un grand plaisir de vous faire visiter nos ateliers qui ont été créés en 1910 et dans lesquels mon grand-père déjà à l'époque coupait donc ses fameux habits verts. Puis ce fut mon père et moi-même depuis les années 70, donc depuis une quarantaine d'années.
Oui, si vous voulez bien, on va approfondir un peu l'histoire de la maison Stark un peu plus loin, parce que je voudrais d'abord quand même présenter un peu votre maison. Une maison comme la vôtre, au lieu de la couture sur mesure, fait de vous le tailleur attitré de nos académies, comme vous venez de l'évoquer, depuis longtemps donc, et tailleur officiel du corps préfectoral français, s'il vous plaît. Vous êtes, on peut dire, l'âme de cette éminente entreprise, dont vous cumulez toutes les fonctions et dont vous assurez toutes les responsabilités. Alain Stark, avez-vous conscience que vous donnez ces lettres de noblesse à un art qui se fait rare?
Je crois que c'est surtout, j'ai l'impression d'être un peu un gardien du temple, plutôt que de donner les lettres de noblesse à cet art. Je pense que l'important, c'est de conserver notre savoir-faire à la française, dans un artisanat qui, malheureusement, a tendance à disparaître, mais que nous essayons de faire perdurer à travers nos habits d'académiciens, notre brodeuse qui est meilleure ouvrière de France et qui illustre superbement nos habits parce que nous les coupons, mais c'est elle qui les brode. Et sa broderie est inégalable et admirée dans le monde entier.
Et nous avons le grand plaisir de rencontrer la fameuse brodeuse, la fée de la maison, la star de la maison Stark, Nicole Laurent. Bonjour madame.
Bonjour madame. Donc en effet, je suis la brodeuse des habits verts et je vais finalement vous énumérer les différentes étapes de réalisation des broderies pour un habit de cérémonie académicienne ou académicien. Après la confection du vêtement réalisé par Monsieur Stark, celui-ci est démonté, remis à plat. Un bâti cerne les contours de chaque élément qui permet de positionner les broderies à l'endroit exact. Sur un calque, je relève ses repères, croque grossièrement l'ensemble du feuillage composé de feuilles d'olivier, de branches et d'olives pour une vue d'ensemble.
Pardon de vous interrompre, vous parlez de feuilles d'olivier. C'est une tradition, n'est-ce pas, pour un habit d'académicien? Pouvez-vous nous le confirmer?
Tout à fait. L'habit vert, c'est uniquement des rameaux d'olivier, branches, feuilles, olives.
Y a-t-il différentes formes éventuellement? Enfin, est-ce qu'il y a une petite liberté de dessiner sa feuille d'olivier ou est-ce qu'il y a un dessin original qu'il faut suivre?
Non, il y a cette liberté et on tient compte surtout de la stature de la personne pour l'élancer, lui donner un dessin homogène, équilibré, qui va avantager le vêtement. Voilà. En effet, c'est à partir de ces contours que je dessine mes rameaux d'olivier.
Donc évidemment, en accord avec la personne à qui cet habit est destiné, oui.
Plus ou moins chargé, en effet, en fonction du goût de la personne. C'est vrai, M. Stark me transmet ses indications et je les suis avec rigueur.
Je pense qu'il y a une sorte de fiche technique pour chaque costume ou chaque habit, n'est-ce pas?
Tout à fait, M. Stark me donne des indications et je les suis avec précision. Tout à fait.
Si je comprends bien, vous avez le dessin sur lequel donc vous exercez votre art. Avec des fils, il s'agit toujours des mêmes fils ou est-ce qu'il y a des fils particuliers pour certains habits ou certains costumes?
Non, pour l'habit d'académicien, on utilise la soie perlée, uniquement. Donc on utilise au moins 4 couleurs que le client choisit, que l'académicien choisit, s'il veut une dominante plus dorée ou plus verte. Et c'est le choix de l'académicien.
Donc il y a des nuances de couleurs déjà. Voilà. Toujours la soie perlée, et pardonnez mes lacunes en la matière, mais c'est quoi précisément la soie perlée?
Alors c'est une soie qui est plus grosse qu'un fil et qui est moulinée. Et qui est moulinée, mais pas serrée, ce qui fait qu'elle est, si vous voulez, on voit la torsion et qui fait comme une petite, enfin, des petites perles les unes à côté des autres. Ah. Si on regarde vraiment à la loupe, c'est vrai.
Donc, j'imagine que ça donne une plus grande luminosité et peut-être un plus grand relief, non?
Du relief, c'est vrai que c'est très lumineux. Elle est beaucoup plus lumineuse et brillante que la soie brodée uniquement, parce qu'il existe donc la soie brodée. À la base, c'est la même, mais la torsion fait que le résultat est différent.
Ah,
voilà,
oui, oui.
Tout à fait.
Et c'est particulier à un habit vert ou ça peut s'appliquer éventuellement sur d'autres vêtements?
Je pense que c'est utilisé dans d'autres situations, hein, je pense. Mais toute la gamme verte et jaune est faite en effet pour les, les habits verts.
Donc une fois que vous avez le dessin, vous faites votre broderie, vous mettez beaucoup d'heures, j'imagine, à finir. Donc, et en plus ça dépend du dessin, parce qu'il y a des habits qui sont plus chargés que d'autres, etc. Donc d'un habit à l'autre, ça doit varier en nombre d'heures considérablement, je pense, non?
Tout à fait, le nombre d'heures dépend du nombre de feuilles, du nombre... Je voulais préciser que sous chaque feuille, en fait, je dessine mon dessin sur un calque. Ce calque, on le perfore, ce qui me sert à faire le transfert sur le tissu. On fait exactement la même chose sur du carton qu'on va découper et qui va se trouver sous chaque feuille. On fait une découpe de la forme de la feuille et qui va rester sous la feuille. C'est pourquoi les feuilles sont en relief par rapport aux tiges, aux branches, à d'autres motifs. Et on joue sur les épaisseurs. Et c'est ce qui fait la différence du travail main par rapport au travail machine. C'est impossible de le faire à la machine. C'est pourquoi le vrai habit doit être fait avec la découpe faite à la main et brodée sur le carton.
Et ça, c'est extrêmement important à souligner parce que je crois savoir qu'il y a d'autres tailleurs qui se permettent, on pourrait presque dire, de faire du travail mécanique, ça veut dire pas fait main, si je comprends bien.
Tout à fait, ce sont vraiment deux choses différentes, c'est deux produits différents. Même le mot produit n'est pas bon à employer hein, dans ce cas-là. La broderie machine est faite directement sur le tissu, ce n'est pas une soie perlée. Je suppose qu'on utilise de la soie, mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas... La différence, c'est ce relief, oui. Ce relief, parce qu'évidemment, il n'y a pas le carton en dessous. C'est pas possible à la machine, c'est pas possible. C'est des surépaisseurs, on va faire des bourrages de la même matière, mais ça donnera jamais le même résultat.
Donc j'imagine que c'est visible à l'œil nu, enfin quand on a l'œil un peu exercé.
Je pense que l'un à côté de l'autre, on voit réellement la différence.
Oui, oui.
L'un à côté de l'autre, il n'y a pas de... Non, même les gens qui ne connaissent pas, je pense qu'ils font vraiment la différence, et je l'espère.
Vous êtes peut-être... Une des rares, sinon la seule brodeuse qui fait les habits verts des académiciens à la main?
Non, 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 non. Je n'ai pas cette prétention. Non, non, et j'espère qu'il y aura de la suite. J'espère. J'ai d'ailleurs fait une journée initiation à l'école, notre seule école à Rochefort de ma région.
Vous parlez d'une école professionnelle?
D'une école professionnelle en Charente-Maritime à Rochefort-sur-Mer. Et j'ai fait une initiation d'une journée à la broderie soie pour les habits verts.
C'est très important à souligner parce que donc il faut espérer qu'il y aura de la relève.
C'est mon intention. Ça, au moins, ça, je pense le faire.
Vous avez une double casquette et une double mission.
J'espère le faire et de l'heure qu'il est, je le fais bénévolement, de toute façon.
Je peux savoir quel nombre d'heures vous êtes sur une broderie, par exemple sur un col?
Par exemple, sur un col, il faut au moins 45 heures qu'en broderie. Donc avant, vous avez la partie dessin, la partie découpe de carton, le montage du métier, toutes ces étapes par lesquelles on est obligé de passer. Il faut largement 45 heures.
Et vous travaillez de quelle manière, si je peux être un peu indiscrète? Vous travaillez chez vous, vous travaillez à l'atelier Alain Stark, ici à Paris. J'imagine que comme vous habitez en Charente-Maritime, comme je viens d'apprendre... Vous pouvez sûrement travailler beaucoup chez vous. Et vous faites combien d'heures par jour? Parce que ça doit être extrêmement fatigant pour la vue, etc., n'est-ce pas?
Là, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis comme tout le monde. Je travaille comme si j'allais à l'atelier. J'ai toujours eu mon atelier chez moi.
Oui.
Et je commence le matin à 9h. J'arrête à 12h30. Je reprends à 14h et je finis à 20h. Et j'ai une vie sûrement plus sereine que des gens dans la région parisienne. Et c'est pas plus fatigant que n'importe quel autre métier, je pense pas. Non, je pense pas. Ça fait 35 ans.
En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment un métier d'art avec toute la noblesse que ça implique. On parle parfois dans ce métier des petites mains, mais ce sont des petites mains au très grand talent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, Monsieur Stark?
Des petites mains en or, mais qui font des habits verts. Donc ça, c'est un habit qui ne sera pas en or, mais qui sera en soie perlée. Et Madame Laurent, elle est très très modeste, vous savez, et elle fait des merveilles, vraiment. À chaque fois, on travaille évidemment ensemble, de concert, mais je suis à chaque fois surpris par la réalisation. Et à chaque fois, j'imagine quelque chose, et quand on remet les pièces ensemble, c'est toujours un ravissement, un plaisir, un étonnement, parce que c'est toujours de plus en plus beau. Je sais pas jusqu'où elle va aller, mais enfin, elle nous étonne à chaque fois. Et puis, elle a cette humilité et en même temps, cette curiosité, afin de savoir toujours autre chose, de savoir comment je pourrais améliorer encore ma broderie. Et elle nous fait donc des choses qui sont évidemment à chaque fois uniques, parce que chaque vêtement est unique. Et même Laurent, effectivement, parfois va rajouter une petite feuille à tel endroit ou à tel autre. Et ça change tout.
Il y a des possibilités de changement, justement. C'est un fait qui m'étonne un petit peu. En quoi peut évoluer cette broderie qui est toujours sur un modèle original, toujours avec la soie perlée, comme je viens de l'apprendre? Comment cela peut-il évoluer?
Je pense que bon, les académiciens aiment peut-être des habits plus discrets de nos jours. On va dans leur sens, c'est ce qu'ils demandent, au niveau des couleurs, au niveau de la forme de la feuille. Ça peut évoluer, chaque habit est différent. Chaque habit est un, c'est ce qu'on dit, une naissance de quelque chose. C'est vrai que quand on fait notre habit, un habit ensemble, c'est une période où on avance ensemble. C'est ce que je vous expliquais, on cherche des techniques où ça va nous faciliter la vie, les choses, et où le résultat va être encore bien meilleur. C'est justement, c'est jamais fini, c'est jamais fini. C'est...
En plus, j'imagine qu'il y a une relation même lointaine avec la personne pour qui vous confectionnez cet habit, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être rencontré ou pas forcément, mais vous avez une idée de la personne de qui il s'agit et que donc il y a un lien, ne serait-ce qu'imaginaire.
Dès que je sais pour qui la vie, je cherche qui est la personne, ce qu'elle a fait. J'aime bien savoir son histoire. Ça m'est arrivé d'acheter leurs livres parce que j'ai envie d'aller plus loin. Je vis avec eux, je les ai dans l'atelier comme Monsieur Stark, Defto. Quelque part, il y a aussi une autre démarche, voilà, de la curiosité de savoir qui est cette personne, ce qu'elle a fait, son parcours. C'est finalement la cerise sur le gâteau, la biche.
Je vous invite d'écouter pendant vos heures de broderie Canal Academy. Ça vous donnera une relation encore plus étroite avec les académiciens, parce que comme vous savez, nous sommes la radio des 5 académies, donc un peu le porte-parole de ce merveilleux patrimoine intellectuel que nous diffusons dans le monde entier. Encore une question, si vous permettez, vous travaillez pour plusieurs maisons, pas uniquement pour la maison Alain Stark. Vous n'avez pas forcément la même excellence de la coupe du vêtement, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça peut éventuellement poser quelques difficultés pour la broderie?
C'est comme toute chose, si la préparation est bien faite, je vais pouvoir réaliser une broderie qui va bien s'accorder au niveau des raccords. Par contre, si le vêtement est mal taillé, la meilleure des volontés, je ne pourrai pas faire de bons raccords. Mon dessin du départ, les motifs ne seront plus en face, je vais avoir des soucis de raccords. Ça gâche tout, en fait, ça gâche tout.
Et alors, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
De toute façon, on se rend compte de ça au remontage du vêtement. Parce qu'en fait, le vêtement est taillé, l'essayage est fait sur le client, redémonté, on me donne ce vêtement. Ce vêtement, il est donc tracé de bâtis sur lesquels je vais me baser pour faire mon dessin. Si cette préparation au départ, cette coupe est mal faite, je ne pourrai pas mettre mon dessin en accord avec le vêtement. Mes raccords ne tomberont pas en face automatiquement. Et si je respecte bien aussi la forme du vêtement, si je le déforme en le collant, parce qu'il est collé sur une toile pour un maintien, automatiquement, le vêtement sera déformé et restera déformé. Donc, une bonne préparation du départ de la part du coupeur, moins un grand respect de ses bâtis, de ses tracés, et un bon respect aussi de la forme du vêtement au niveau du collage. Et la personne qui remonte le vêtement n'a pas de difficulté si tous ces paramètres sont respectés. Ouais.
Alors, d'où l'intérêt à s'adresser à une, sinon la seule maison de qualité, la maison Alain Starck. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie à continuer votre merveilleux métier. Merci beaucoup.
Merci.
Alain Starck, vous avez donc toute une équipe de professionnels, le tailleur, le coupeur, le culottier, le giletier, le boutonniériste, etc.
Bien écoutez, oui, dans un atelier de tailleur, il y a différentes personnes qui ont des tâches bien définies. Évidemment, le coupeur, le tailleur, qui eux coupent et taillent le vêtement, le tissu comme il se doit. Le culottier ne s'occupe que du pantalon, la giletière ne fait que le gilet. Et puis autour gravitent des petites mains, évidemment, qui font tout ce qui est finition, boutonnière. Donc là, il y a toujours une dame qui est plus spécialisée, qui s'appelle la boutonniériste, et qui, elle, fait ses boutonnières en incluant un petit câble à l'intérieur qui s'appelle une milanaise, ce qui permet aux vêtements d'avoir des boutonnières toujours impeccables, et surtout pour un immortel, des boutonnières qui défient le temps, et qui peuvent traverser plusieurs siècles sans se défaire. Donc ça, c'est une petite technique tout à fait spéciale aux tailleurs sur mesure, car souvent les boutonnières sont faites à la machine. Chez nous, elles sont faites entièrement à la main et il faut compter par boutonnière trois quarts d'heure à une heure de travail, car c'est pratiquement de la broderie.
Ça n'atteint pas l'art de la broderie, mais c'est quand même un travail très très délicat, mais peut-être aussi fastidieux. Elle fait ça pendant toute une journée de travail ?
Non, elle alterne ses boutonnières avec des finitions, avec d'autres petites tâches qui elle intervient dans le vêtement à divers endroits. Évidemment, elle ne ferait pas que des boutonnières parce que ce serait trop fastidieux et très très difficile pour la vue parce que c'est très fatigant. C'est quand même une spécialité. Et quelque chose qu'on ne trouve vraiment que dans le sur-mesure.
Oui. Il y a un autre métier qui est assez étonnant, c'est le monteur de manches. Alors, le fameux tombé de manches doit être évidemment d'une perfection absolue, enfin qui ne supporte aucun à peu près. Pouvez-vous nous présenter votre monteur de manches, s'il vous plaît ?
Alors, un monteur de manches, c'est une pièce maîtresse dans notre métier. Car une manche bien montée, c'est tout le chic du costume. Un monsieur qui a un bras en avant, en arrière, une position un petit peu différente de la position standard. Et il faut décrocher notre emmanchure, donc savoir que il faut peut-être positionner la manche un peu plus en avant, un peu plus en arrière, pour éviter les plis disgracieux qu'on peut avoir soit à l'avant de la manche, soit à l'arrière. Eh bien, c'est un métier qui porte plusieurs noms, historiquement. Enfin bon.
Oui, lesquels?
C'est assez amusant parce que l'ouvrier qui monte les manches peut s'appeler ouvrier-pompier ou bien saladeur. Ce sont des termes complètement internes, évidemment. Ce sont des termes techniques ou disons internes à notre métier.
Un peu familier ou un peu ancien?
Un peu ancien. Faire la pompe, c'était monter des manches.
D'où ça vient?
Eh bien, écoutez, on n'a pas retrouvé vraiment l'origine. Par contre, il nous est arrivé de demander un ouvrier-pompier, sans préciser que c'était chez un tailleur, et on a vu arriver des gens qui voulaient être pompiers chez nous. Alors on a été obligé de leur expliquer que c'était pas pour éteindre le feu, mais que c'était pour monter des manches. Ils ont été très déçus, vous voyez.
Donc oui, quelqu'un qui n'est pas encore introduit dans ce milieu de tailleur sur mesure, dans cet univers, ce fameux tomber de manche, vous ouvre des horizons vraiment, parce qu'en effet maintenant, une fois qu'on a pris conscience de ça, on va regarder tous les messieurs maintenant comment sont montées leurs manches, s'il y a des plis devant ou derrière. C'est très cruel votre métier.
Ah, c'est très cruel. Les clients nous le disent et ils me disent souvent, Monsieur Stark, vous m'avez mal habitué. Parce que lorsqu'ils veulent, bon, acheter une fantaisie pour l'été, par exemple, une veste prête à porter, un peu drôle, pour faire un week-end ou prendre des vacances au soleil. Alors, ils me disent, mais c'est pas possible, cette manche, elle faisait des tas de plis derrière ou elle fait des tas de plis devant. Évidemment, quand on a tout chaud sur mesure, c'est difficile de revenir en arrière. Ça, c'est pas le tailleur qui va vous dire le contraire. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours été habillé sur mesure, déjà par mon père par son père. Donc, quand on a cette culture du sur-mesure, c'est très difficile ensuite dire...
Donc, c'est pas chez vous qu'on verra un pli dans le fameux tombé de manche. Et à propos donc de manche, on doit parler, bien sûr, d'un élément essentiel, le tissu, l'étoffe. Et vous avez d'ailleurs aussi, j'ai vu dans l'entrée, une laine d'un lama, le vigogne, qui est un tissu d'une finesse, d'une délicatesse extraordinaire. Pouvez-vous nous présenter un petit peu vos choix de tissu?
Oui, alors nous avons un choix de tissu assez étendu, puisque nous avons dénombré à peu près 6500 tissus différents, 6500 étoffes. Évidemment, vous parlez de la vigogne. Alors là, la vigogne, c'est un peu exceptionnel. C'est une laine très fine qui est à base de poils d'un petit lama qui vit à 4000 mètres dans les Andes et qu'il faut aller chercher très haut. C'est une espèce protégée. Et dans la cordillère des Andes, il y a donc des chasseurs de vigogne qui repèrent les troupeaux, qui les tondent, mais qui ne tondent que la partie ventrale, et qui le remettent évidemment en liberté, puisqu'ils sont tout à fait protégés, et qui donnent une laine d'une finesse extraordinaire, encore plus agréable, encore plus fine que le cachemire. C'était l'étoffe des rois, ça reste l'étoffe de gens très fortunés, parce que ça revient, ça a un coût assez élevé, évidemment, vu que pour faire un par-dessus, par exemple en vigogne, il faut un troupeau entier, et donc, évidemment, ça revient à un prix assez élevé. Néanmoins, il y a internationaux qui nous demandent ce type de vêtement qui est extrêmement rare aujourd'hui.
Qui est rare, mais est-ce qu'il est aussi résistant?
Alors, il est résistant. Je ne conseillerais pas aux clients quand même de faire des exercices physiques avec, mais c'est un vêtement extraordinaire. C'est un vêtement chaud, chaud et très léger. Donc l'équivalent d'un très beau cachemire, mais encore plus léger. Donc évidemment, ça s'adresse à une clientèle quand même qui a le temps de s'habiller le matin, qui ne court pas, qui n'a pas d'impératif, je dirais, horaire, parce qu'il faut quand même le ménager et le mettre dans des conditions optimales.
Donc outre ce tissu vraiment magnifique, sublime, très léger et très rare et très cher. Donc le reste de vos tissus est évidemment aussi d'une très haute qualité. Est-ce qu'il y a une provenance particulière?
Oui, eh bien sûr la vigogne c'est tout à fait à part. On ne peut pas, je vous avoue qu'on en fait rarement quand même. Alors par contre, la majeure partie de nos étoffes viennent d'Angleterre, où les métiers à tisser sont encore traditionnels, où on tisse d'une façon assez différente de l'Italie et de la France, à savoir que les Anglais tissent en retors, c'est-à-dire que quand la chaîne et la trame se rencontrent au moment du tissage, il y a une torsion d'un quart de tour de chacun des fils, ce qui fait que le tissu qui sort de cette technique-là est extrêmement nerveux, ne froisse pas, et donc a une résistance exceptionnelle. Donc là, sur ces vieux métiers à tisser anglais, on arrive encore à avoir la qualité qu'on a connue dans le temps et on a vraiment un vêtement qui peut résister à toutes
les épreuves. Parce que à partir de cette base du tissu, tout le reste en dépend en quelque sorte. Après, c'est le travail de l'aiguille, mais j'imagine que chaque tissu demande évidemment une forme d'aiguille particulière, n'est-ce pas? Et c'est comme une écoute du tissu pour bien réussir un vêtement sur mesure.
Oui, chaque tissu demande une technique un petit peu différente. Évidemment, on ne traitera pas un gros tweed anglais comme on va traiter un alpaga, donc un tissu très fin. Il faut s'adapter à chaque fois, à chaque nouveau tissu, à chaque étoffe, la traiter comme il se doit, c'est-à-dire que, évidemment, il faut choisir les outils adéquats, l'aiguille, comme vous le dites tout à fait justement, le fil qui, lui aussi, doit être adapté selon on a un tissu léger ou épais, donc on utilisera des fils différents. Pour les emmanchures, par exemple, on utilisera de la soie parce que c'est imputrescible et toutes les emmanchures chez nous sont cousues au fil de soie, ce qu'on appelle de la soie château, qui est une soie en écheveau. Et ce qui permet à un vêtement de traverser aussi le temps sans être obligé de faire recoudre par-ci, par-là, la doublure. Là, non, le point étant serré et cousu à la soie château, et ça ne bouge pas et le monsieur peut compter sur son vêtement de longues années.
Bon, je crois que là, on a fait en gros le tour d'une confection d'un habit. Dans votre métier, somme toute, quand même assez classique, y a-t-il la place à la fantaisie ou autrement formulé, est-ce que la mode ou le goût personnel de vos clients, caprice personnel éventuellement, est-ce qu'ils peuvent influencer considérablement, notablement ou particulièrement un vêtement, enfin en tout cas un vêtement de prestige?
Oui, tout est possible, sur mesure, tout est possible. Donc le client peut nous demander des tas de choses, dans la limite évidemment de nos possibilités techniques, mais tout est possible aussi bien dans les formes, dans les tissus, dans les doublures, dans les couleurs des boutonnières, dans le nombre de poches qui sont parfois vraisemblables. On fait des poches tout à fait étonnantes pour des métiers étonnants aussi.
Comment ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer pour nos auditeurs ?
Aujourd'hui déjà, le monde moderne fait que nous avons tous des téléphones portables. Donc nous avons créé une poche spéciale pour le portable, sous le bras, qui avant était une poche pour les lunettes, mais qui maintenant a migré de l'autre côté du vêtement. Nous avons des poches, par exemple, pour des messieurs de notre rue, la rue de la Paix. Il y a beaucoup de diamantaires. Donc nous faisons des poches spéciales pour qu'ils puissent transporter leurs diamants, mais à des endroits tout à fait secrets et qui sont vraiment impossibles à trouver. Donc ça, c'est très pratique pour leur sécurité. De même que les messieurs qui, par exemple, fument et nous donnent donc exactement la taille de leur paquet de cigarettes et de leur briquet pour que le paquet tienne bien d'un côté et que le briquet ne tombe pas sur le paquet de cigarettes. De même que dans certaines poches de pantalon, on puisse faire des petites poches pour des petites boîtes à pilules. Je vous dis, c'est donc, tout est possible. Des messieurs qui veulent des boutonnières de couleur ou des doublures de tons assez étonnants. On a fait récemment pour un monsieur très sérieux, un grand banquier français, un costume gris très strict, très très strict. Et comme on lui reprochait d'être un petit peu austère, il l'a fait avec une doublure rose. Et le jour du conseil d'administration, alors que tout le monde se tenait évidemment...
Garde à vous.
Il a dit, écoutez messieurs, on va enlever la veste aujourd'hui. Voilà. Et quand il a enlevé la veste, cette doublure rose a fait que tout le monde s'est regardé et ils se sont dit, mais... c'est pas possible, le patron est devenu fou. Et ils se sont aperçus que ce monsieur qui avait l'air si austère pouvait avoir beaucoup de fantaisie, qu'il pouvait être extrêmement sérieux dans son métier, et à côté, en fait, être très très amusant. Et alors ça a détendu l'atmosphère. Absolument. Et cette doublure a changé complètement leur relation, parce que maintenant ils sont très détendus.
C'est tout à fait étonnant tout ce qu'on peut découvrir à travers la fabrication d'un vêtement de prestige. Pour clore ce chapitre de la visite de l'atelier, quelques conseils pour nos amis académiciens. Quels conseils pourriez-vous donner aux petites tailles, aux grandes tailles, aux maigres tailles, ou aux plus corpulentes tailles, etc.
Il est évident que le dessin des broderies change à chaque fois. Et donc il faut aussi adapter, évidemment, à la fois l'habit et sa coupe à la morphologie du monsieur. C'est un monsieur grand, évidemment. il faudra que l'habit soit plus long. Il faudra aussi, évidemment, peut-être faire des broderies un petit peu plus importantes pour diminuer, évidemment, la stature. Pour un monsieur plus petit ou un peu plus fort, il faudra mieux attirer l'œil vers le haut du vêtement qui sera plus brodé et un peu moins sur la partie vulnérable, à savoir le ventre, qui peut parfois être un peu arrondi et qui fait que si on le brode trop, si on fait trop de bouquets à cet endroit-là, évidemment, on va lui donner encore plus d'ampleur. Ce que je peux révéler aujourd'hui, puisque c'est maintenant prescrit, à l'époque où j'ai rencontré M. Raymond Barre, et je lui ai dit la première fois, « Monsieur le Premier ministre, que souhaitez-vous ?» Et il m'a répondu, toujours avec son air bonhomme et tellement sympathique, « Monsieur Stark, je voudrais être mince. » Eh bien, je lui ai dit, « Bien, banco, comme il m'a dit, vous serez mince. » Et grâce à Madame Laurent, notre brodeuse, nous avons réalisé son vêtement en faisant très attention de ne pas broder outrageusement au niveau de sa corpulence et d'attirer l'œil vers le haut du vêtement. Je crois que il en a été content puisqu'il nous en a remercié et félicité. Donc, ça a été notre petit plus, je dirais, quand Monsieur Barre m'a dit, oh, mais dans cet habit, je suis mince. Alors, je me suis dit, ça là, le pari est gagné.
Monsieur Stark, vous faites donc le costume, l'habit vert, mais il n'y a pas que l'habit, il y a aussi des accessoires.
Oui, l'habit vert évidemment constitue la pièce maîtresse, mais néanmoins il faut penser à quelques accessoires importants. Déjà à savoir la chemise qui va être portée en dessous et qui est en principe une chemise à col cassé en coton blanc, avec un nœud qui aussi est dans le même tissu, c'est un tissu nid d'abeille blanc de coton, un coton d'Égypte longue fibre qui est extrêmement élégant. Donc une chemise col cassé de cérémonie. On peut aussi confectionner, à la demande de certains académiciens, le gilet brodé. Alors le gilet brodé, c'est un gilet qui est brodé sur soie naturelle, soie sauvage, dans les mêmes teintes exactement que l'habit. Et donc, quand l'habit s'entr'ouvre, on voit délicatement la broderie du gilet qui dépasse et c'est fort élégant. C'est un tout petit accessoire, mais qui donne un cachet supplémentaire à l'habit. Et il faut aussi, évidemment, prévoir le porte-épée pour suspendre cette fameuse épée d'académicien et le symbole, évidemment, de toute une vie.
Qui est brodé aussi ?
Alors, il peut être soit dans le même tissu que l'habit, sans broderie, soit brodé avec les mêmes motifs, brodé par la brodeuse, avec les mêmes motifs que l'habit. On fait moins de porte-épée brodée car ça alourdit un petit peu quand même le vêtement et puis c'est un petit peu au détriment de l'épée car l'épée se suffit à elle-même. Quand il n'est pas brodé, il disparaît sous l'épée et c'est très très élégant.
Pour les dames académiciennes, vous faites aussi des petits sacs, je crois savoir.
Alors oui, il nous est arrivé dernièrement de faire un très joli petit sac pour une dame académicienne de l'Académie des sciences, car elle ne voulait pas porter d'épée. Alors nous lui avons créé un petit sac à porter sur l'épaule et que nous avons brodé un petit bouquet dans les mêmes teintes que son habit. Et l'habit était doublé rouge, le petit sac aussi, c'était très élégant. Elle était ravie de pouvoir emporter au moins un mouchoir et quelques petits accessoires féminins avec elle.
Et maintenant, on imagine bien toute la fabrication et puis la réalisation donc, de cet habit vert. Maintenant, on voudrait quand même aussi connaître son histoire. Est-ce que vous savez quand a été créé cet habit vert et pourquoi d'ailleurs s'appelle-t-il l'habit vert, Alain Stark?
Cet habit vert a été créé par le premier consul Bonaparte l'an floréal en 9, qui correspond au 13 mai 1801. Mais il instituait à l'époque un grand costume et un petit costume. Le grand costume était constitué d'un habit, d'un gilet ou d'une veste, et d'une culotte ou d'un pantalon noir. Ils étaient brodés d'une branche d'olivier en soie vert foncé, et le chapeau était un chapeau à la française. Le petit costume était de même forme et de même couleur, mais n'ayant de broderie qu'au collet et au parement de la manche, avec une baguette sur le bord de l'habit. Donc le premier consul Bonaparte avait institué cet habit. Ensuite, il évolua.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait plutôt des grands costumes ou des petits costumes ?
Je dirais que c'est plutôt un grand costume, parce que c'est un habit, et puis il n'y en a plus qu'un maintenant. Le problème est résolu, néanmoins il s'inspire des premiers costumes, et les broderies sont nées le 13 mai 1801, avec cette institution de Bonaparte, et ils ont été pour la première fois dessinés et brodés par la maison Picot et Salambier, brodeurs, qui ont donc fait les premiers cartons des costumes, des habits d'académiciens.
Oui, c'était en quelque sorte fait comme un signe distinctif, n'est-ce pas, des académiciens pour mieux les désigner en tant que tels. Parce que souvent, on pouvait voir leurs médailles ou je ne sais quelle autre décoration, mais avec donc cet habit, et en l'occurrence un habit vert, on pouvait tout de suite savoir à qui on avait affaire.
Oui, absolument. Là, on identifie tout à fait l'académicien, et donc il est incomparable avec certains autres corps, évidemment, qui eux aussi sont vêtus de vêtements brodés, mais on ne pourra pas confondre, évidemment, un académicien avec un préfet, avec un consul général de France.
Et encore moins avec un militaire. Mais vous faites également des habits de militaire, d'ailleurs, à propos ?
Nous ne faisons pas d'habits pour militaires du tout. Nous avons toujours fait le corps préfectoral et mon père qui habillait le général de Gaulle tenait énormément à ce que le corps préfectoral soit très bien habillé. C'était son corps préféré. Je dirais que nous avons aussi dans nos cordes la confection des habits d'ambassadeurs, donc en quinti d'or, les habits d'ambassadeurs de France. Nous en avons fait un récemment pour l'ambassadeur de France à Londres. Et nous faisons aussi les vêtements des chevaliers du Saint-Sépulcre. Et nous allons, parce que ça ne voyage pas, c'est une petite anecdote, chercher les boutons chez Annibal Gamarelli, le tailleur du pape à Rome. Et Annibal Gamarelli nous remet les fameux boutons des chevaliers du Saint-Sépulcre.
Mais justement, parce qu'il y a dans cette élite à qui vous avez affaire, il y a le contact très personnel, donc une clientèle qui a forcément haut niveau d'exigence et pour chacun un sens aigu de son identité, comme vous venez de l'évoquer. Et peut-être nous reviendrons plus loin sur certaines personnalités en vue, mais quels sont en général les problèmes spécifiques que vous rencontrez avec ces personnalités? On pense bien sûr à beaucoup de discrétion, au tact, à l'écoute, mais aussi à un certain rôle de conseil. Toute qualité qu'on dénote chez vous tout de suite à la première rencontre, je dois d'ailleurs vous dire. Alors comment cela est-il vécu par vous dans l'intimité de ces rencontres ?
Mais écoutez, à chaque fois c'est une grande émotion, un grand honneur, un grand bonheur de rencontrer un académicien, car c'est toujours un personnage hors du commun qui a en principe fait quelque chose d'exceptionnel puisqu'il rentre sous la coupole. Ce n'est pas évidemment quelqu'un que l'on peut rencontrer facilement. Donc c'est dans mon métier, j'ai cette grande chance de pouvoir rencontrer ces hommes et ces femmes éminentes qui me confient beaucoup de choses. Et évidemment, sachant que j'ai toute la discrétion de mon métier, savoir que évidemment tout ce qui se dit ici dans nos salons ne sort pas du 16 rue de la Paix, évidemment. À chaque fois, c'est évidemment aussi une rencontre et une nouvelle aventure. Je suis souvent tellement impressionné quand je les rencontre que les premiers temps sont un petit peu difficiles parce que je suis devant des hommes illustres, des femmes illustres. Et après, la glace est brisée, l'intimité s'installe. Et puis, le client, qui devient presque un ami de la maison, très souvent, s'ouvre à nous et me dit, voilà, je souhaiterais telle ou telle autre chose. Et selon la personnalité de chacun, J'essaie de cerner, si vous voulez, le dessin, voire là même la couleur de sa broderie, car le monsieur un petit peu discret souhaitera peut-être une couleur un petit peu éteinte, un monsieur un tout petit peu plus extraverti souhaitera une couleur plus brillante, un peu plus voyante. Mais
donc, vous parlez de la couleur de la broderie?
Oui.
La fameuse soie perlée?
Oui, cette fameuse soie perlée, car elle peut quand même varier d'un vert à l'autre. Les olives peuvent être plus ou moins jaunes et plus ou moins importantes. Donc, de par la taille, de par leur couleur, on peut les rendre un peu plus discrètes ou un peu plus présentes. Donc, ouais. Tout ça fait qu'on répond au désir du client. À nous aussi, un rôle de conseil, parce que tous les gabarits, évidemment, se présentent chez nous, et il faut qu'ils soient les plus beaux du monde ce jour-là, hein, évidemment. Donc, on fait tout notre possible, évidemment, pour contrarier les petites difformités qu'on a tous.
Vous réussissez magnifiquement à cacher, comme on vient d'entendre dans cette anecdote au sujet de Raymond Barre, qui est absolument charmante. Mais écoutez, vous habillez donc des personnages de vos rangs, académiciens avant tout, toutes sortes de célébrités, hommes d'État, têtes couronnées. Alors vous venez de dire que votre père déjà habillait, par exemple, le général de Gaulle. Et vous, vous avez vu de grandes figures défiler dans votre atelier et certainement aussi d'éminentes personnalités étrangères. Alors, tout en restant dans une discrétion de bon aloi, bien sûr, et puisque certains ont bien voulu figurer dans votre livre d'or, on peut peut-être quand même évoquer quelques personnages. Vous avez une galerie de célèbres personnages qui sont passés par votre maison.
Oui, nous avons cette chance et puis cette position géographique de la rue de la Paix et qui fait que cette rue est bien connue et que, évidemment, le bouche-à-oreille fonctionnant depuis près d'un siècle, ces messieurs, aussi puissants soient-ils, se sont évidemment donné l'adresse, je dirais. Je me déplace, pour certains chefs d'État, je me déplace évidemment, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou bien dans les pays plus froids du côté de la Russie. Donc je rencontre ces personnages qui me permettent.
Le président ou le premier ministre?
Je ne citerai pas de nom. Eh bien, voilà, chaque fois c'est aussi une très grande émotion de les rencontrer en chair et en os, alors qu'on a toujours l'impression qu'ils sont inatteignables. En fait, ils se révèlent très souvent extrêmement charmants, très agréables, et ça me permet à chaque fois de découvrir beaucoup de choses. Et ça m'a permis dernièrement de visiter le Kremlin et donc de découvrir des endroits qui ne sont jamais visités.
Mais ça doit être absolument impressionnant. Donc comment se passe une rencontre donc avec un haut représentant de la Russie au Kremlin?
Bon, ça se passe très, très simplement, avec une relation tout à fait chaleureuse. Et la proposition qui m'a été faite la dernière fois de visiter le Kremlin un petit peu inconnu et non pas touristique m'a beaucoup tenté et j'étais très très heureux de le faire. De même que j'avais eu la chance, par l'intermédiaire du tailleur du pape qui me l'avait promis, quand je suis venu à Rome, il m'a fait visiter la chapelle Sixtine tout seul. C'était très très impressionnant, j'en avais presque froid dans le dos, parce que se retrouver dans cette chapelle Sixtine avec le tailleur du pape, ça tient du roman.
J'imagine, et puis vous avez suivi les longs couloirs, le musée du Vatican qui est ô combien célèbre, et la chapelle Sixtine, quand on la voit en privilégié tout seul, sans la foule autour, évidemment, l'impression est tout à fait autre, n'est-ce pas? Oui.
Oui.
Donc vous avez eu une rencontre avec Michel-Ange.
C'était l'impression que vous avez très très bien traduit. C'était à la fois impressionnant et un moment dont je n'oublierai jamais l'intensité, parce que c'était vraiment quelque chose d'étonnant à la fois et d'unique dans une vie. C'est impossible évidemment d'avoir ce privilège et c'est grâce à mon métier que j'ai pu le faire. Donc j'étais très content ce jour-là d'être tailleur.
Et d'ailleurs c'était sous quel pape? C'était Jean-Paul II, peut-être?
Oui, c'était sous Jean-Paul II et sa sainteté avait permis à Annibale Gamarelli, donc, qu'il aimait beaucoup parce qu'il usait de très très belles tenues épiscopales et papales surtout, et il lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il pouvait disposer pour certains de ses invités de ce privilège. Donc j'en ai profité et je le remercie encore du fond du cœur parce que c'est un moment que je n'oublierai jamais, vraiment.
parliez de traversée de l'Atlantique, donc j'imagine que ça veut dire les États-Unis. Donc vous avez rencontré là-bas aussi, peut-être pas des têtes couronnées, mais en tout cas des célébrités.
Bien écoutez, pour rien vous cacher, j'ai rencontré un ex-président que vous imaginez, un monsieur tout à fait charmant dont la femme aujourd'hui est aux affaires, donc je ne pourrais pas en dire plus, mais un monsieur d'une gentillesse et d'un humour tout à fait sympathique. Nous sommes vraiment rencontrés et ça a été le début d'une sorte d'entente cordiale et donc à chaque fois qu'il a besoin de mes services, je ne me fais pas prier pour venir le rencontrer. Voilà, donc c'est un peu aussi un moment d'exception parce que évidemment ça a été l'homme le plus puissant du monde pendant un certain nombre d'années. Et puis,
vous étiez à la Maison Blanche.
C'est aussi un moment tout à fait étonnant de pouvoir pénétrer dans le salon ovale et de rencontrer évidemment un personnage que toute la planète regarde donc.
Et vous avez même trouvé une petite cabine pour faire les essayages avec le président des États-Unis.
Oui. Nous nous sommes mis à l'abri des regards indiscrets pour prendre quand même les mesures que j'ai gardées et qui sont évidemment dans un coffre parce que ce sont des mesures présidentielles. Donc,
tout à fait, gardées secrètes, bien sûr.
Bien sûr.
Je vois dans votre livre d'or, évidemment, des présidents français. Donc, s'ils sont dans votre livre d'or, ça veut dire que vous avez peut-être aussi eu la chance de les vêtir.
Mais écoutez, nous avons eu la chance déjà de les rencontrer. Et bien sûr, chaque président est obligé un petit peu quand même de faire plaisir. Donc, nous ne sommes pas attitrés à un président ou à un autre. Donc, j'ai reçu des mots, des témoignages de sympathie de nos présidents successifs et ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais là, je ne pourrais pas en dire plus. J'ai habillé, par contre, régulièrement, Monsieur Christian Poncelet, notre ex-président du Sénat, qui est toujours un homme charmant, très accueillant, et avec lequel nous avons eu les meilleures relations du monde quand je lui faisais ses essayages.
Un grand ami de Canal Académie d'ailleurs, Christian Poncelet, oui, l'ancien président du Sénat, comme vous venez de le dire. Et puis je vois d'autres photos, des superbes photos, peut-être à la bibliothèque Mazarine.
Oui, cette photo a été prise dans la bibliothèque de l'Institut et je suis en compagnie du professeur Laronde. Le professeur Laronde qui est le chef des fouilles en Libye et en Cyrénaïque et qui a fait une œuvre magistrale concernant ces fouilles. Il est à la fois un énorme chercheur et en même temps un diplomate émérite car ce n'est pas toujours facile de travailler dans ces pays-là. Mais il n'a jamais eu aucun problème, ce qu'il m'expliquait, parce qu'il connaît très bien ce pays. Il continue donc toujours ses recherches, ses fouilles, et c'est une passion. Comme tous les hommes passionnants, ils vous transmettent leur feu sacré.
Oui, elles sont très intéressantes, d'ailleurs, ces fouilles en Libye. Donc, vous êtes vraiment internationalement connu, et ça continue depuis... Maintenant, on l'a dit depuis 100 ans. Alors, si vous voulez bien nous raconter un petit peu l'histoire de la maison Stark. À l'origine, c'est votre grand-père qui a créé cette maison en 1910. Elle a été reprise par votre père et après par vous-même. Vous étiez déjà à bonne école. Et racontez-nous un peu les origines de cette belle tradition familiale. 1910, c'est 4 ans donc avant la Première Guerre mondiale. Vos grands-parents venaient de Pologne, n'est-ce pas? Comment sont-ils arrivés à Paris? Dans quelles circonstances? Et comment ont-ils pu s'établir comme tailleurs sur mesure? Et si j'ai bien entendu, ils s'étaient déjà établis rue de la Paix?
Oui, eh bien, mon grand-père, qui venait de Pologne, est parti à Londres. Il a commencé sa carrière à Londres. Et puis, en 1910, il est venu à Paris et il est tombé amoureux d'une Française. Et il a trouvé que le climat londonien ne lui convenait plus, évidemment, et qu'il préférait rester ici à Paris, et donc il a fondé cette famille à Paris. Il avait aussi dans l'idée que la rue de la Paix étant une rue élégante, il aurait des clients élégants. Donc il avait, je crois, vu juste, et il s'était dit, à l'époque évidemment les salons étaient plus petits, ils n'avaient pas tout l'étage que nous avons aujourd'hui, mais il avait bien imaginé qu'il rencontrerait des personnages intéressés par le sur-mesure et le très beau. Alors, évidemment, les personnalités ont commencé à venir tout doucement, et puis Et à l'époque, il y a eu des gens célèbres qui sont venus ici. Le président Nehru avait ses habitudes. Quand il était venu ici voir mon grand-père, alors ça c'était un petit peu plus tard, en 1951, lors de son voyage à Paris, lorsqu'il est venu voir Vincent Auriol, le président de la République de l'époque, il était monté ici. En 1952, alors là on change de registre complètement, Ray Sugar Robinson, le grand champion de boxe, vient chez Stark & Sons, la presse s'en empare, raconte qu'il a commandé 150 costumes roses. Non, il avait commandé 4 costumes bleus. Mais la presse avait envie de sensationnel déjà à l'époque. C'était un homme immensément connu, évidemment, par ses exploits sportifs et d'une élégance étonnante, puisque sur un ring, on l'appelait le danseur, parce qu'il était partout et nulle part à la fois. Donc ça, c'était un monsieur qui, évidemment, attirait énormément de curieux chez Stark & Sons, parce que Ray Sugar Robinson s'était habillé chez Stark & Sons.
Une belle publicité.
Oui. Et déjà en 1951, André de Fouquière, qui était l'arbitre des élégances, écrivit à mon père cette petite note. « Nous devons rendre à Paris son visage d'élégance et de séduction. Mon cher Stark, je vous félicite de l'avoir compris. » Ce qui toucha beaucoup, évidemment, mon père, car André de Fouquière était... sinon l'arbitre d'élégance, aussi un peu un dandy de l'époque, et il arbitrait évidemment la mode et puis beaucoup de petits détails que les hommes devaient porter pour être élégants, soit aux courses, soit dans leur situation diverse et variée.
Et heureusement pour vous, il avait peut-être quelques suiveurs qui venaient ensuite vous voir.
Oui, il était très écouté. C'était le premier critique, je dirais, de mode, mais la mode au masculin. Et donc, il avait évidemment beaucoup de suiveurs et d'aficionados qui, sachant que André de Fouquière conseillait la maison, venaient commander leurs costumes ici, chez nous.
Et la tradition continue.
Alors, la tradition continue. Évidemment, les choses ont évolué. Il a fallu, évidemment, adapter notre production sur mesure au temps actuel, c'est-à-dire le monsieur qui travaille, qui voyage, qui prend des avions, qui fait des conférences, n'a pas les mêmes impératifs et n'a pas le même timing, je dirais, que le monsieur qui, dans les années 50, avait le temps de choisir chaque pièce de sa garde-robe. Là, aujourd'hui, évidemment, nos clients nous demandent d'être extrêmement pratiques, car ils veulent à la fois être élégants, mais ils doivent prendre un avion très tôt, faire une conférence dans la soirée, rencontrer un personnage parfois éminent. Donc il faut répondre à toutes ces exigences sans alourdir les valises. Quand ça ne se passe pas à Paris, il faut évidemment trouver des solutions un petit peu tactiques.
Oui, avec un seul costume, être représentatif dans toutes circonstances.
Oui, alors l'idéal justement, c'est de faire un seul costume avec deux pantalons. Le monsieur voyage avec un pantalon, il a son deuxième pantalon impeccablement plié dans sa mallette. À l'arrivée, il change de pantalon, donc il débarque, on a l'impression qu'il vient d'empiler son costume. C'est très agréable, ça ne demande pas beaucoup de bagages, donc le monsieur peut à la fois partir le matin, avoir une soirée très habillée et revenir tout de suite après à Paris. Donc ça facilite beaucoup les choses. Pour des messieurs très occupés, dont les fonctions sont souvent très prenantes, très chargées.
Comme je disais au début, vous avez beaucoup de fonctions et beaucoup de responsabilités. Depuis le chef d'orchestre, on pourrait presque dire, de cet atelier, dirigez donc toute votre équipe, et on a vu tous les différents métiers qui constituent votre équipe. Et puis, j'imagine le directeur financier, le représentant international... et le voyageur, et le psychologue, bien sûr, c'est très très important, et le diplomate, enfin il y a énormément de fonctions et de rôles. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus dans cet superbe atelier et de nous avoir fait découvrir cet univers qui est vraiment extrêmement intéressant à pénétrer dans un monde vraiment peu connu. Et tous les aspects qui l'entourent. Donc un grand, grand merci et j'espère que nos auditeurs auront une grande idée maintenant de ce que c'est qu'un grand tailleur des habits verts, des académiciens.
Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir porté tant d'intérêt à notre métier, assez méconnu, comme vous l'aviez dit au tout début de cette interview. Et puis, voilà, nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux académiciens, de les vêtir et d'avoir à chaque fois cette relation privilégiée. Donc, vraiment, merci à Canal Academy de faire le relais entre le tailleur et l'institut. Merci, Madame Leuc, pour votre très gentille interview que nous avons partagée ensemble et pour vos questions très pertinentes qui nous ont permis de faire le tour de cet univers.
Merci beaucoup, Alain Stark, et à bientôt.
À bientôt.